Critique politique par le père Philippe Arimon, le 1er juin 91.
Je continue la réponse à ces questions. Pour ceux qui n'ont pas assisté au cours, comprenez que ce sont, après le cours, on pose les questions et on essaie d'y répondre. Alors, une question qui a déjà été touchée parmi les conjoints, parce que c'est philosophie de la famille, hein, philosophie de la famille, parmi les conjoints, qui a autorité pour l'éducation? C'est la question de l'éducation, on n'a pas encore touché, donc je ne traite pas cette question maintenant, mais peut-on encore parler de famille quand il n'y a pas d'enfant dans un foyer? Comment aborder ce sujet avec des couples qui ne peuvent pas en avoir et des couples qui n'en veulent pas? Puisque nous avons vu que c'est l'amour des conjoints qui constitue la famille, l'enfant étant le fruit, mais ne spécifie pas de façon absolue. Donc la famille, c'est l'amour de l'époux et de l'épouse. En premier lieu, alors je dirais, c'est une famille incomplète, en attente, dans la mesure où il peut y avoir encore une attente. Mais c'est une famille. Comme de fait, quand il y a la mort du père ou de la mère, et que les enfants sont là, la famille continue. Mais elle est mutilée. Et si elle est incomplète, on peut très bien parler d'un état de perfection ou d'imperfection. Et la famille comme telle a sa structure. C'est l'amour, l'amitié. Les conjoints qui fait la famille, qui fait le foyer. Alors, comment aborder ce sujet avec des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Je crois, d'abord c'est très variable, il faut être toujours très très discret dans ce domaine. Quand on connaît, mais c'est très difficile, j'ai dû faire cela à Paris une fois. M'avait demandé les souffrances particulières de la famille. Alors j'ai traité cette question-là dans une conférence. Parce que c'est une des souffrances les plus nettes, ça. Un couple qui désire avoir des enfants et qui n'en a pas. Alors, je crois qu'il faut d'abord monter et rappeler que l'amour des conjoints lui-même, sa propre finalité, comme tout amour. L'amour ne se finalise pas par un effet, par un fruit. Il se finalise par cette relation mutuelle de deux personnes qui s'aiment. C'est très très important ça. Autrement, on relativise l'amour. Et c'est dans la mesure où on relativise l'amour que l'amour perd son caractère propre. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus fragile. Dites-vous bien ça. C'est ce qu'il y a de plus fort, parce que quand on commence à aimer vraiment quelqu'un, on a, j'allais dire, on est entièrement mobilisé dans toutes ses forces spirituelles et sensibles et imaginatives. Donc c'est une mobilisation générale de toutes nos forces. Mais en même temps, l'amour nous fragilise, nous rend beaucoup plus vulnérables. C'est du reste pour ça qu'il y a des hommes qui ont très peur d'aimer. Plus les hommes que les femmes, ordinairement. Les hommes ont peur d'aimer. Parce qu'ils savent que par l'amour, ils deviendront dépendants. Et ils n'aiment pas la dépendance. Néanmoins, les hommes aiment bien leur autonomie. Ils aiment bien de rayonner et d'avoir leur autonomie. Les épouses doivent toujours se rappeler ça. Donc, de réussir cette petite gloire et de garder leur autonomie. Donc, rappelez aux couples qui n'ont pas d'enfants que la finalité première, c'est cet amour réciproque. Deuxièmement, s'il y a le point de vue chrétien, le sacrement, faire comprendre que Dieu peut-être leur demande une fécondité spirituelle. Je connais certains couples qui n'ont pas d'enfants et qui ont découvert ça. Et où il y a de vrais rayonnements. Ils viennent des foyers spirituels pour ceux qui, aujourd'hui, ou des enfants, qui ont besoin d'un petit séjour en dehors de leur famille propre, retrouver autre chose. Un couple qui n'a pas d'autorité naturelle. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Vous voyez, c'est le point de vue d'une fécondité spirituelle sur d'autres enfants ou une fécondité spirituelle sur d'autres couples. Alors, ça ne peut pas se faire tout de suite au début. Mais si on est fidèle, il peut y avoir cette fécondité spirituelle. Je crois que ce sont les deux aspects qu'on doit rappeler en premier lieu. Et ça, on peut toujours les rappeler. Mais, évidemment, il faut le faire avec beaucoup de tact. Ça, c'est sûr. Des couples qui n'en veulent pas, alors là, c'est très différent. C'est pas du tout la même chose, hein. Faut montrer que des couples qui n'en veulent pas, c'est pas très chrétien. Et que c'est aller contre l'amour. L'amour ne peut pas supprimer la fécondité. Et un amour qui supprime la fécondité, c'est un amour qui se tue, tôt ou tard. Mais c'est là où on voit le lien entre l'amour et la fécondité. C'est un lien très fort. Alors on peut retarder, c'est évident, on peut mettre une certaine prudence, si vous voulez, mais refuser, vous savez bien, que pour le mariage chrétien, si un couple se marie avec le désir de ne pas avoir d'enfant et la volonté de ne pas en avoir, c'est suffisant pour montrer qu'il n'y a pas de mariage. Nullité du mariage. Il n'y a pas eu de sacrement. Parce que le sacrement regarde la totalité de l'amour des conjoints. Si on peut le prouver, c'est une des raisons très très importantes de la nullité du mariage. Parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Mais ce qui prouve bien que ça touche la chose essentielle du foyer. Et puisque le foyer est constitué par l'amour, ça touche directement la plénitude de l'amour. Le respect de l'un et de l'autre fait que on doit respecter tout ce qui est en eux, leur personne, donc l'individu, et ne pas mettre obstacle à cette fécondité de leur amour. Alors, évidemment, s'ils ne veulent pas comprendre cela, on ne peut pas les forcer, bien sûr. Mais on peut leur faire comprendre que si on s'aime vraiment, on ne peut pas mesurer l'amour par autre chose que l'amour. C'est cette parole très très forte de Saint Bernard que Saint Thomas a repris. L'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. C'est très très fort ça. Et c'est très vrai. Dès que vous mesurez l'amour par autre chose que l'amour, c'est-à-dire par la prudence, vous limitez l'amour et au fond, vous l'empêchez d'être lui-même. Mais il faut comprendre que cet amour, c'est l'amour spirituel qui porte sur une personne. Et donc on respecte la finalité de la personne. On ne peut pas aimer quelqu'un vraiment sans coopérer à sa finalité, donc à son épanouissement plénier. Donc quand on dit que l'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour, il faut comprendre non pas l'amour passionnel. L'amour passionnel est dominé par l'amour spirituel. Il s'agit d'amour spirituel. Et d'amour spirituel dans l'amour d'amitié. Donc dans cet amour réciproque de l'un par rapport à l'autre. Où plus on s'aime, plus on se respecte. Et le respect, c'est permettre l'épanouissement le plus plénier de l'un et de l'autre. Et que l'épanouissement de l'un n'est pas le même que celui de l'autre. Surtout si on a épousé quelqu'un qui est artiste. Ça, c'est si difficile dans les ménages d'artistes. Ce qu'il peut avoir, ou deux arts pareils, semblables, mais il exerce très différemment. Ou deux arts différents, l'exercice encore plus différent. Et on doit avoir le respect. Pour quelqu'un qui est un artiste, son art fait partie de sa personne.
Il y a des pays comme la Suède, un couple sur deux décide de ne jamais avoir d'enfant. Et au plan pastoral, quand on parle avec des personnes comme cela, la raison c'est toujours que notre univers est tellement menacé que ce serait irresponsable.
C'est une fausse raison.
Oui, mais comment complètement répondre à cela?
Il faut leur montrer que c'est une fausse raison.
Mais quand il vous cite des statistiques et
Oui,
bombes atomiques
mais
et que le monde entier peut être sauté en 4 secondes,
oui, je sais bien. Oui.
C'est très.
Mais donner la vie à quelqu'un, c'est que ce petit être vivra éternellement. Ce qui ne voit plus l'âme spirituelle, ça matérialise. Et les raisons profondes, parce qu'on donne ces statistiques qui font que on admet toutes les injustices. La grande raison, c'est que les hommes sont plus justes. Si les hommes étaient plus justes, il y aurait de la place pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on se sert de ceux qui ont faim pour développer le point de vue économique et non pas par charité pour les autres. Donc toutes ces statistiques qui sont faites comme ça sont fausses. Parce qu'elles ne regardent pas vraiment le bien de l'homme. Elles sont indépendantes de la finalité de l'homme. Elles ne regardent que le point de vue économique. Or, l'amour n'est pas mesuré par l'économie. C'est pour ça que je dis ça. C'est tellement important de se rappeler cette parole de Saint Bernard. La mesure de l'amour, c'est l'amour. Il faut pas qu'on puisse réfléchir là-dessus. Parce que c'est là où on comprend comment l'amour spirituel regarde une personne et qu'une personne possède en elle-même un certain absolu. Et que cet absolu, on doit le respecter. Autrement, on n'aime pas vraiment. C'est pour ça que c'est la chose la plus difficile d'aimer. D'aimer vraiment. D'aimer passionnellement, ben c'est instinctif, alors ça va très bien. Mais on n'aime pas vraiment. L'amour passionnel implique toujours une possession et un égocentrisme. C'est pour ça que l'amour passionnel se implique un ver rongeur à l'intérieur. Et il se tue, c'est extrêmement curieux ça. On attribue souvent le terme famille religieuse aux communautés. Est-ce exact? Analogiquement. Famille religieuse. La famille chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la finalité de la famille? C'est le fait de la survie de l'espèce. C'est, premièrement, l'amour d'amitié. Est-ce que la vie religieuse n'a pas comme but premier l'exercice de la charité fraternelle? et donner le témoignage que des êtres très différents dans le Christ peuvent s'aimer. Vraiment. Donc, analogiquement, c'est une famille. Et vous n'allez pas dire que le but premier de la politique, c'est la charité fraternelle. Discours de Mitterrand sur le renouveau de la France. On ne peut pas dire ça. C'est la concorde des citoyens. La confiance est déjà beau. Ils ne se tuent pas. Ils ne sont pas des apaches. Qu'on puisse vivre dans le calme. Qu'il y ait moins de police. Que la police n'est plus que soit au chômage. Ce serait le but parfait de l'État. C'est que la police soit au chômage. Et ça, on n'en est pas encore là. Il a été dit, dans un premier cours, que le bonheur que l'homme cherche ne peut être qu'individuel, personnel. Il ne faut pas chercher le bonheur dans une communauté. C'est sûr, c'est sûr. Le bonheur est toujours une chose personnelle, même dans l'amour d'amitié. C'est très, très curieux. N'attendez pas le bonheur de votre ami. Aimez-le pour qu'il soit heureux. Et vous serez heureux. Autrement, vous allez toujours dire, oh, je l'aimais, je croyais qu'il allait m'apporter le bonheur. Il ne me l'a pas apporté. Donc, c'est pas un véritable ami. Vous n'attendez pas ça. C'est pas le but de l'amitié. Le but de l'amitié, c'est de s'aimer. Et donc, de rechercher le bonheur de l'autre. Mais le bonheur, la communauté ne nous donne pas le bonheur. Le bonheur est personnel. Chacun d'entre nous, on est domina sui. On a un pouvoir d'orienter sa vie. C'est la liberté profonde qui jaillit d'amour. Et si on a un pouvoir d'orienter sa vie, on est au-dessus de ce que les anciens appelaient le destin. C'est très beau de voir dans la philosophie grecque où l'aspect du destin dominé, la moira. Certains étaient nés sous une mauvaise étoile, et donc toute leur vie serait malheureuse. D'autres étaient nés sous une bonne étoile, toute leur vie. Il y a encore des choses comme ça aujourd'hui. Bien, les philosophes réagissent violemment contre ça. Aristote réagit violemment contre ça. En disant que chacun d'entre nous, on a la capacité de nous rendre heureux. C'est le but de l'éducation. L'éducation, c'est d'arriver à se dominer et d'orienter sa vie, se prendre en main. Alors on a eu une première éducation qu'on a subie, on y a coopéré. On a d'abord subi, puis on y a coopéré, et quelquefois on s'est opposé. Puis ensuite, il y a une auto-éducation. Je crois que l'auto-éducation, c'est l'éducation de notre cœur et de notre volonté. Je crois que l'éducation de l'amour relève toujours de chacun d'entre nous. Et c'est l'éducation la plus profonde. On s'éduque à aimer. Il ne faut pas croire qu'on s'aime naturellement, du moins, qu'on aime naturellement au plan spirituel. On doit lutter pour aimer quelqu'un de façon spirituelle. C'est une conquête, l'amour. Toujours. C'est une victoire. Ça ne nous est pas servi sur un plat d'argent ou un plat d'or. Pas du tout. La passion est spontanée. Mais il faut éduquer la passion pour que l'amour spirituel ne soit pas étouffé. Si la passion est laissée en pleine liberté, l'amour spirituel, je veux aimer cette personne, l'amour de bienveillance, on l'aime pour elle-même et on lui veut du bien. Si la passion est laissée en pleine liberté, elle va étouffer l'amour spirituel. Et dès que l'amour spirituel est étouffé, c'est l'égocentrisme qui domine. Il faut éduquer la passion. Et la passion, amour. on éduque notre capacité d'aimer. Et je crois que c'est là où l'éducation prend toute sa signification. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce que c'est que cette auto-éducation. On a un certain pouvoir sur soi d'orienter sa vie, de choisir ce qui nous semble être notre bonheur, et d'orienter notre vie vers ce point de vue-là, et de choisir les moyens qui sont bons pour cela. Et je dirais, vous voyez, ça c'est la vocation humaine au sens propre. Celui qui n'a jamais choisi et orienté sa vie restera toujours malheureux. Toujours. Alors il aura des petits moments de bonheur. Carpe diem. Carpe diem des épicuriens. Mais il ne domine pas. Il n'a pas la capacité de se dominer, donc il ne s'est jamais éduqué. Alors, on doit prendre conscience de cela, oui. C'est le but du noviciat. Il ne faut pas l'oublier. Le but du noviciat, c'est prendre conscience. Or, si c'est le but du noviciat au point de vue religieux, tout homme a son noviciat. Si les chrétiens n'avaient pas l'esprit, ça, c'est de comprendre qu'il doit s'éduquer. Tant qu'il n'a pas compris ça, il est à la remorque. Il n'y a pas de bonheur. C'est très très important, ça. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut bien saisir. Donc, le bonheur est toujours personnel. Et le bonheur implique un choix libre. Il n'y a pas de bonheur sans choix libre. C'est en ce sens qu'on est à soi-même source de notre propre bonheur. Ça me semble très important à comprendre. Autrement, on n'a pas de personnalité. Si on n'a pas de personnalité, il n'y a pas de bonheur. L'individu comme individu n'est jamais un homme heureux. Parce qu'il est une partie d'un tout. Il est en partie d'un tout comme individu. Le tout le massacre toujours. Et éternellement, on sera en rébellion contre le tout. Il n'y aura pas de bonheur. La personne est au-dessus du tout. Elle dépasse. Et on s'oriente vers ce qu'on a choisi comme notre vocation. Et chaque homme a une vocation, hein, qu'il faut découvrir. Découvre quelquefois un peu trop tard. Non, chaque homme a une vocation. Vocation religieuse, vocation chrétienne, vocation humaine. Et tant qu'on n'a pas fait ce choix, on n'est pas un être humain complet. On n'est pas une personne. On reste en dessous du niveau de la mer. On reste un individu au milieu d'un tout. Notre vie n'a pas encore pris son sens et son orientation. Alors on peut être un citoyen conscient, organisé, mais on n'a pas le bonheur. Parce qu'on attend le bonheur de l'État et l'État ne nous donnera jamais le bonheur. Il n'y a pas de bonheur pour les fonctionnaires. Jamais. C'est pas l'apanage du fonctionnaire d'être heureux. L'apanage du fonctionnaire, c'est de travailler d'une manière efficace. Alors évidemment, il peut recevoir un gros salaire et à partir de là, il peut orienter sa vie. C'est plus facile. Mais c'est pas toujours ce qui donne le plus grand bonheur. Alors, on me pose la question, si la communauté ne donne pas le bonheur, est-ce que le couple peut donner le bonheur? Il est évident que dans le couple, puisque le choix est nécessaire au bonheur, et que le choix mutuel là est très proche, on pourrait dire que dans le couple, il y a une espèce de co-bonheur, de bonheur des deux, je crois. Mais, je mettrai là un bémol, je crois qu'on ne peut être heureux à deux que si on a trouvé un bonheur personnel. Là, il faudrait développer ça. Je crois que c'est très important. Voyez, quand vous écoutez un peu les récriminations d'un foyer aux petits-enfants de mariage, pas la première année, laissez. La première année, il faut laisser les jeunes tranquilles. Ça dure un an, ça dure 2 ans, très bien. Troisième année, ça commence. Oui, c'est pas si commode que ça. Alors on commence à retrouver ses vieux amis. Ah, si tu savais, pas commode. Je croyais qu'elle était parfaite, on pas du tout. Oh là là. Quand elle était fiancée, elle était parfaite, mais maintenant, oh là là, elle montre bien ce qu'elle est. Et puis l'autre récrimination de l'autre côté, c'est évident. Et puis à ce moment-là, plutôt que d'accuser l'autre, il y en a qui accusent toujours la communauté. Pourquoi ils accusent la communauté? Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur bonheur. Si on a trouvé le bonheur personnel, on n'accuse plus la communauté. Bien, je crois que c'est la même chose dans le couple. Oui, ça va très loin. Parce que ça montre que l'ami est d'abord une personne avant d'être ami. Le bonheur n'est pas attaché à l'amour d'amitié. Il est attaché à la personne. C'est la propriété de la personne. Seule une personne humaine peut connaître le bonheur. Et si cette personne humaine connaît son bonheur en étant liée d'amitié avec un autre, ensemble ils pourront connaître un surcroît de bonheur. Mais le bonheur naît de la personne. Ça me semble capital de comprendre ça. Parce que très souvent, on se marie pour trouver le bonheur. Mais non, on se marie pas pour trouver le bonheur. Je regrette. On doit avoir trouvé le bonheur avant. Si on se marie pour trouver le bonheur, on le trouve jamais. C'est comme ceux qui épousent. Je vous ai déjà donné cet exemple. J'épouse telle fille pour la convertir. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit ça. Il m'a demandé de venir son mariage, j'ai refusé. Il dit, vous ne vous épousez pas pour convertir votre épouse. Ah, il m'a regardé. Ah, je croyais que vous alliez trouver ça merveilleux. Je dis, non, je trouve ça pas merveilleux du tout. C'est pas merveilleux du tout. Et je refuse de vous aimer. Alors il a trouvé le curé sans lui dire ça. Ils se sont mariés un an après, ça n'a pas duré longtemps. Ils sont venus me trouver, ils me disent, vous avez raison. Ils se sont séparés. Mais il faut respecter les spécifications, ce qui est propre à l'amour. Je dis, c'est la même chose. C'est les gens qui disent, bien, on dit, ah, mariez-vous, vous trouvez le bonheur. Mariez-vous, vous trouvez votre épanouissement. C'est très dangereux de dire ça. C'est très dangereux. Parce que ça fait croire, vous voyez, que l'amour d'amitié va être la panacée universelle. C'est faux. Très difficile de s'aimer. Il faut une certaine maturité d'avoir trouvé le bonheur. Donc d'avoir trouvé sa vocation. Sa vocation personnelle. C'est pas l'autre qui me l'a fait comprendre. C'est moi. Il y a un respect de la personne dans l'amour d'amitié. Et la personne humaine implique qu'elle soit capable de trouver le bonheur. Alors réfléchissez là-dessus, s'il y a des points qui sont, qui vous fait bondir, je le dis exprès, un peu nettement, pour vous faire un peu bondir et comprendre qu'il y a là quelque chose sur lequel on baisse comme ça constamment. D'où la quantité de divorces. J'ai épousé une personne, j'ai cru trouver auprès d'elle le bonheur, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je vais en trouver une autre. Et puis vous trouverez ça indéfiniment, vous serez comme la Samaritaine. Et le cinquième ne lui donne pas le bonheur. Impossible. Alors vous voyez, il faut comprendre ça. Très vrai que l'amour d'amitié apporte un épanouissement. Mais cet amour d'amitié n'apportera un épanouissement plénier que si je justement, vous êtes capable de le recevoir. Et l'épanouissement plénier de l'amour d'amitié, on est capable de le recevoir dans la mesure où on a justement cette auto-éducation sur sa propre finalité. Sur le bonheur qu'on a découvert en soi, au-delà de nous. Les époux se promettent une obéissance mutuelle. Hein? Comment heureux, j'ai jamais vu ça. Vous croyez qu'ils se promettent une obéissance mutuelle? Ils se promettent un amour mutuel, mais une obéissance mutuelle, non. Je crois pas. Je finirai pas le mariage, ce mariage. Je promets de t'obéir jusqu'à la fin de ma vie. L'autre, je promets de t'obéir jusqu'à la fin de ma vie. Alors, c'est deux autorités qui se marient. C'est pas deux autorités qui se marient. C'est pas deux obéissances qui se marient. C'est deux personnes qui s'aiment. Différent, pas la même chose. Bon, je continue. Les époux se promettent une obéissance mutuelle. Comment regarder les familles qui vivent en communauté sous l'autorité d'un berger? Ah oui, alors on comprend. Le berger, c'est la troisième personne. Et c'est le mariage. Le sacrement ne s'est pas étendu au berger. À qui les enfants doivent-ils obéir? Est-ce normal de mélanger ainsi les vocations? Je ne juge pas ça de l'extérieur, c'est trop délicat. Comment imposer ce genre de vie à des enfants qui ne l'ont pas choisi? Bon, posez-vous toutes les questions. Il faut chaque cas particulier. Je comprends très bien que le problème se pose. Je comprends très bien. C'est vrai qu'il y a un problème. Mais je corrige tout de suite. Hein. Les époux ne se promettent pas obéissance mutuelle. Nous avions déjà vu ça, le problème de l'autorité dans l'ordre de l'amitié. L'amour d'amitié est au-delà de l'autorité. Mais deux êtres qui s'aiment avec lucidité connaissent leur fragilité et connaissent leurs compétences. Et se donnent à eux-mêmes autorité dans tel domaine. C'est ça qui devrait exister. Avec le sacrement de mariage, il est sûr que l'Église dit que l'homme a une responsabilité et que l'épouse a sa responsabilité. Il y a une complémentarité dans les responsabilités. Et l'Église donne la comparaison de l'Église. Du Christ et de l'Église. Alors comprenons bien, c'est une analogie. Il ne s'agit pas de l'appliquer matériellement comme font certains époux. En disant le Christ, c'est la tête. Eh bien toi, tu n'as plus de tête. Du fait même que tu te maries avec moi. Je suis ta tête. Et tu seras bras, pied, pour moi, donc servante. Ça existait, ce genre de choses, hein. Et des gens, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas, vous voyez, c'est faux, ça. C'est faux, parce que la grâce ne supprime pas la nature. Or, si je regarde l'amour d'amitié est au-delà de l'autorité. Mais l'amour d'amitié veut une coopération. Et dans toute coopération, il y en a nécessairement un qui doit avoir autorité. Et donc, il faut se déléguer l'autorité. Et si on est très intelligent, c'est-à-dire si on est suffisamment lucide, dans l'amour d'amitié, on se délègue l'autorité dans des domaines différents. Ça se fait dans un consensus mutuel. Dans ce domaine-là, c'est toi. Dans ce domaine-là, c'est moi. Et c'est comme ça qu'on peut s'entendre. Oui. Si l'autorité, si on applique matériellement la comparaison du Christ et de l'Église, on est sûr d'arriver à quelque chose qui est impossible. que ce n'est pas une application matérielle qu'il faut prendre. Enfin, peut-être serait-il bon d'aborder aussi le lien entre famille et politique. Ça viendra après. Bon. On va donc maintenant, après avoir regardé, je parle au plan philosophie de la nature, de la famille, hein. Après avoir vu comment l'amour de l'époux et de l'épouse est ce qui structure le foyer, ceci au plan philosophique, comme la grâce se détruit par la nature, je peux le dire même au point de vue chrétien. C'est l'amour des conjoints, que la fécondité est essentielle et elle n'est pas première. On ne se marie pas premièrement pour avoir des enfants. On se marie pour s'aimer. Tant qu'il n'y a pas cet amour vrai, mutuel, de l'un pour l'autre et de la personne de l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas entièrement au point. Et la grâce sanctifie cet amour mutuel en premier lieu. Et la grâce sanctifie ensuite ce point de vue de la fécondité en second lieu. Qui dit fécondité dira responsabilité vis-à-vis de l'enfant qui sera le fruit de l'amour de l'un et de l'autre. Alors c'est tout le grand problème de l'éducation. Alors on va voir quelques aspects. Je crois que c'est très important au plan philosophique d'y réfléchir. Et ce n'est plus l'éthique personnelle. C'est le premier moment de l'éthique politique. La famille étant la cellule fondamentale du point de vue politique. Et la famille ayant son indépendance au plan politique dans le choix mutuel de l'époux vis-à-vis de l'épouse. Et dans ce choix profond de la fécondité. Là, c'est un droit sacré. Que personnel. L'État n'a pas le droit d'intervenir dans sa mère. Peut-être farouche là-dessus. Et parce que tous les États totalitaires interviennent. Et c'est, je crois, ce qui caractérise un État totalitaire. C'est que lorsqu'il intervient dans un domaine qui n'est pas le sien. Ce domaine qui n'est pas le sien, c'est justement d'intervenir dans le domaine de l'amour d'amitié. On a le droit de choisir ses amis. Et on a le droit de choisir son épouse. Et l'épouse a le droit de choisir son époux. Et ça, je dirais au point de vue chrétien, l'Église est farouche là-dessus. Je vous ai rappelé déjà ce qui s'était passé au Concile de Trente, où les théologiens français, gallicans, étaient partisans que la volonté des parents, l'acceptation des parents, était nécessaire pour la licéité et la validité du mariage. Les théologiens espagnols, reprenant la théologie de saint Thomas, ont dit non. Les parents n'ont qu'un droit de conseil. Et donc la validité du mariage n'implique pas et ne demande pas le consentement des parents. Vous voyez ça? C'est dans un mariage, on devait demander aux parents qui étaient là, êtes-vous consentants? Et si les parents étaient absolument contre, ils vous sortiraient. Alors, tant que toutes ces cérémonies-là, non, je refuse. Nous sommes obligés d'arrêter les cérémonies. C'est intéressant de voir ça. Alors, l'Église a tranché. Elle a vu que l'autorité des parents n'intervenait pas dans la question du choix. Ils peuvent mettre, si vous voulez, ils peuvent de leur part dire « Je n'accepte pas, donc si tu te maries avec une telle, hein, qui n'est fille, qui n'est pas du tout du même genre que notre famille, puisqu'on dit « On sait les raisons », on ne te verra plus. S'ils s'aiment vraiment, ils passent au-dessus. C'est une épreuve. S'ils s'aiment vraiment, ils peuvent tenir compte de la vie des parents. Et ce n'est pas la vie des parents qui décide. Mais les parents, ça fait partie d'un conditionnement. Et pas de la détermination du choix. Un conditionnement très proche, mais un conditionnement. Donc, dans l'exercice du choix, ça intervient. Dans la prudence par rapport au choix, ça peut intervenir. Mais ça ne spécifie pas le choix. Ça ne peut pas spécifier le choix. Alors, comprenons que lorsqu'il y a mariage, les époux sont responsables d'eux-mêmes. Responsables de la fécondité est responsable du fruit. Et cette responsabilité, elle est dès le premier moment de la conception. Et elle va durer jusqu'au moment où l'enfant sera capable de choisir lui-même l'orientation de sa vie. À partir du moment où l'enfant est capable d'orienter sa vie, les parents n'ont plus qu'un droit de conseil.